Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Liberté et les libraires. Au programme, la suite de « Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir ». Et nos suggestions de lecture, policiers. Bonne écoute.
Vous écoutez, nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir, un texte de Gabriel Cholette, paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue Liberté. Dans les années 2010, avec Rihanna à la tête des palmarès radiophoniques, la femme n'est plus celle qui a besoin des avances financières de ses amants. Elle marque, musicalement du moins, un tournant social vers l'explicite, où tout doit s'afficher, notamment sur les réseaux sociaux, se revendiquer fièrement. Prenons par exemple « Bitch Better Have My Money » BBHMM, la chanson hurlée à la lune pendant cette célébration à l'écart de Fierté Montréal. Nous ne sommes pas les seuls à accorder une valeur à cette pièce, qui est la dernière qu'a produite Rihanna avant de disparaître et de laisser ses fans sur leur faim. BBHMM est un succès mondial avec ses 160 millions d'écoutes sur YouTube et 61 millions sur Spotify. Tout n'est que percussion dans cette chanson. La basse martèle des coups rapides et graves. Rihanna rappe des bra 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 et orne d'un staccato les paroles de ses couplets. Le refrain, dans lequel la chanteuse demande avec vigueur le paiement de l'argent qui lui est dû, est incisif. Bitch better have my money. You all should know me well enough. Bitch better have my money. Please don't call me on my bluff. Pay me what you owe me. Balling bigger than LeBron. Bitch, give me your money who all think I'll affront you. Le salaud ferait mieux d'avoir mon argent. Vous devriez me connaître assez. Le salaud ferait mieux d'avoir mon argent. S'il vous plaît, ne relevez pas mon bluff. Paie-moi ce que tu me dois. Je vis plus grandement que le bron. Salaud, donne-moi ton argent. À qui pensez-vous que vous avez affaire? Quel est cet argent mentionné à trois reprises dans ces huit vers? Il s'agirait de celui volé par son comptable à travers une gestion malhonnête de ses livres de comptabilité, vol qui a conduit à des poursuites judiciaires en 2012. Selon Soraya Nadia McDonald, journaliste au Washington Post, le vidéoclip de BBHMM aurait fait dévier l'opinion publique, aidant Rihanna à remporter son procès. Cette chanson prolonge une attitude à propos de l'argent que la star prônait déjà dans « Pour It Up », où il peut être bon de dévoiler son désir d'obtention de capital, signe d'une attitude de révolte face aux puissants ou peut-être d'appropriation du pouvoir qui leur était réservé. Il s'agit d'une variante intéressante de l'énonciation traditionnelle de la musique pop qui chante l'amour d'un « je » pour une autre personne, « tu ». Ici, le « tu » est un comptable déloyal qui a escroqué l'artiste, l'adresse ne s'effectue pas sur le mode amoureux, mais bien sur celui de la menace. Pour moi, BBHMM formule une attaque rythmique et langagière destinée aux puissants. Dans ses chansons, Rihanna fait chanter en nous notre révolte et le besoin de redistribution des richesses, notre désir de renversement social. En se plaçant comme la plus puissante, puisque c'est elle qui oriente notre compréhension du conflit avec son comptable. Elle vit le fantasme d'une société où les minorités gagnent. Son agentivité est à la fois subtile et criante. Sa méthode artistique, qui consiste à expliciter des enjeux sociaux, est ici à son paroxysme. Beaucoup de violences sont montrées dans le vidéoclip de BBHMM. Violences que nous acceptons parce qu'elles répondent à un scénario de révolte en germe dans notre façon actuelle de voir la société. La chanson prône une parole revendicatrice qui fait appel à une rétribution économique et symbolique en raison de dommages accomplis, une leçon qui peut aisément être traduite et intégrée par celles qui ne se reconnaissent pas dans l'ordre du monde tel que présentement pensé par les banquiers. Comme nous le verrons à l'instant, un fort paradoxe existe car, d'année en année, la richesse de Rihanna n'a fait qu'augmenter. Se creuse ici un écart entre la prétendue volonté de s'en prendre aux plus riches et le fait de le devenir soi-même. Sa musique devient, du jour au lendemain, le symbole d'une parole révoltée qui est elle-même capable de produire d'incroyables richesses. C'est quelque chose qui peut, bien entendu, plaire à des groupes minorisés qui rêvent d'une émancipation sociale, mais aussi économique. D'où le succès international de ses œuvres, qui réveille chez la masse le désir de partir off-monde, de trouver des zones de plaisir et de liberté à l'écart des principes sociaux qui discrimine, qui nous sépare. Je m'en vais à un rave off-fierté qui se déroule près du quartier Hochelaga-Maisonneuve, près du stade, que je ne perdrai pas de vue. Capitale symbolique, capitale en crème. Quand j'arrive sur les lieux, une foule immense m'attend, crie, jouit d'être enfin rassemblée après des mois de confinement. Cette foule m'encourage à m'intéresser théoriquement à Rihanna, à voir ce qui a mené à ce que nous nous laissions collectivement emporter par ses paroles, qui éveillent en nous l'espoir d'avoir une agentivité sur nos vies, le pouvoir de dire et de décider. Depuis que j'ai écrit les premières sections de cet essai, je m'amuse à lire ces chansons les moins marquées du point de vue du vocabulaire de la sexualité et de l'argent, pour voir comment elles révèlent des fantasmes collectifs. Ainsi, Don't Stop the Music devient l'hymne obsédant d'un monde dont le rythme change, où nous devenons de plus en plus impatients devant le désir et où nous vivons, comme sur la piste de danse, accrochés à l'idée d'une échappée qui ne se terminerait jamais. La célèbre chanson « Umbrella », quant à elle, promet le salut individuel à celui ou à celle qui pourra rejoindre Rihanna sous son parapluie, protégée des pluies acides qui déferlent sur la terre. Il n'y a ainsi pas qu'une explication des luttes sociales dans sa musique. On voit que, par la forme particulière de la musique pop, Rihanna parvient à expier certaines des hantises de notre siècle, à façonner un imaginaire pour nous faire crier, chanter, danser. Cela se range malgré tout du côté de l'idéologie libérale, tout en cultivant l'insatisfaction des groupes sociaux marginalisés. L'usage qu'ont fait les communautés queer et trans de BBHMM durant un party off fierté est en ce sens caractéristique de la réappropriation des textes et des rythmes qu'il est possible d'effectuer. J'aurais pu insister davantage à cet égard sur le fait que nous écoutions une version remixée du tube, ce qui suggère déjà un certain écart quant à la mouture première et capitaliste de la chanson. Faire un pas de côté, canaliser sa frustration contre une société qui se soumet. Au fil des années, cela veut dire s'en prendre à Rihanna, à la suite de son ascension fulgurante. Après son dernier hit, Rihanna quitte la scène musicale pour investir un nouveau territoire. Elle devient une Rihanna restructurée, hyper-capitaliste, qu'on aperçoit parfois sur les réseaux sociaux, derrière des images largement réfléchies par des équipes qui ont fait d'elle une étoile commerciale ayant brisé tous les plafonds de verre qui guettent les femmes d'affaires. En 2017, un an après la sortie de son dernier album « Anti » 2016, elle met sur pied « Fenty Beauty », une compagnie de maquillage qui fait fortune en proposant une ligne de fond de teint caractérisée par sa large diversité de teintes, une nouveauté dans ce marché qui était encore trop peu inclusif. Avec ses produits, Rihanna continue son long travail de revendication sociale. Après s'être attaquée aux stéréotypes sexuels qui touchaient les adolescentes et les femmes noires, elle s'applique à transformer le monde des cosmétiques afin d'offrir à toutes des produits qui leur conviennent. Remarquant le caractère novateur de la marque, le Time reconnaît Fenty Beauty comme l'une des 25 meilleures inventions de l'année. Une drôle de liste où on trouve des produits aussi variés que la Tesla 3, un hijab Nike pour les athlètes musulmanes et les fameux fidget spinners, qu'on voyait partout à l'époque. À ce jour, la compagnie est évaluée à 2,8 milliards de dollars. Avec ce succès, Rihanna est devenue l'interprète féminine la plus riche du monde, sa fortune ayant été évaluée à 1,7 milliard de dollars le 5 août 2021. Vous écoutez, nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir, un texte de Gabriel Cholette, paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue Liberté. Devant cette véritable métamorphose de l'artiste en produit capitaliste, on pourrait dire « La reine est morte, vive la reine ». Partout où l'on recense l'ascension de la chanteuse, on mentionne que sa fortune n'a pas été amassée grâce à ses performances musicales. Étrangement, quand on lit les commentaires en ligne sur Fenty Beauty, on a l'impression d'avoir affaire à des produits qui parlent. Dans un article de Forbes, une consultante nommée Shannon Cohen explique l'enthousiasme pour les produits en écrivant que beaucoup de gens pensent qu'il n'existe pas de lignes adaptées à leur couleur de peau. C'était clair, moyen, moyen foncé, foncé. Nous savons tous que ce n'est pas la réalité. Elle a été l'une des premières marques, je souligne, à dire « Je veux m'adresser à toutes ces personnes différentes ». On peut se demander qui est cette personne marque qui parle. J'avais envie d'essayer les produits Fenty et m'étais fait livrer en 2019 une petite crème destinée aux personnes non-binaires, ce qui est un contresens si l'on se fie à la pensée queer, qui veut justement défaire les catégories de genre. La non-binarité n'est pas un troisième genre. Une fois le paquet arrivé, la crème m'a littéralement sauté dessus. C'était pas une blague. Perché dans le carton, d'une sorte de gris qui tombe sur le mauve, le petit tube s'est lancé sur mon visage en prenant bien soin de se dévisser avant de me mettre de la crème sur les zones plus fragiles de mon visage mal entretenu. Je ne savais plus qui remercier. La merveille que j'avais sous les yeux? Rihanna elle-même ou Fenty Beauty? À quoi avais-je affaire? Quand elle parle de sa plus récente création, Rihanna renforce elle aussi l'idée d'un produit qui parle, comme si c'était grâce à cette relique qu'elle parvenait à toucher les gens dorénavant. Mon idée n'est pas de ridiculiser l'attachement que les gens peuvent avoir pour certains produits. Je comprends bien, pour l'avoir vécu plus d'une fois, le soulagement de se reconnaître dans un produit qui a été manifestement conçu pour soi, alors que le marché a tendance à concevoir ces produits pour correspondre à la norme sociale. Tout de même, je veux comprendre ce qui parle et demeurer critique. Ce lien entre moi et l'objet, c'est à la fois le récit que je me fais de moi-même, mon rapport à la société dans laquelle je vis, ma propension à me rappeler les rapports de force qui m'habitent et qui me hantent, qui font que j'écris maladivement ces temps-ci, voulant assurément sortir de ma tête les débuts d'idées qui sont là, toujours en train de se reformuler. C'est ce qui parle dans les crayons Fenty, les teintes créées pour des corps qui ne cessent d'être confrontés à leurs différences, partout, tout le temps, jonglant avec les attentes de beauté qui leur sont imposées, mais auxquelles elles ne peuvent qu'imparfaitement se conformer. Ce qui parle dans les pinceaux pour les yeux et les fards, ce sont les moi multiples qui varient toujours et qui se sentent immanquablement à la limite d'elles-mêmes. Mais ce moi, comment s'est-il concilié ou s'est-il mêlé au fil des années à des produits culturels, à des produits économiques? Ne pourrait-on pas dire que mon désir de m'expliciter et la difficulté de le faire découle de cette culture qui érige les frontières, qui marque des différences pour ensuite en profiter? Ce que j'apprends en écoutant et en réécoutant Rihanna, c'est ce jeu des limites. Limites sexuelles, sexistes, racistes, mais aussi environnementales, humaines. Dans une forme musicale qui se doit de toujours dire, au risque de devenir obsolète, ne retrouve-t-on pas ce qui, dans notre société, capitalise et normalise trop? Ce sont deux pôles qui profitent aux marchands, aux Zuckerberg et aux Bezos, qui créent des plateformes sociales à leur image, à l'image de l'information constante, du tout qui parle tout le temps. Et Rihanna, avec ses crèmes, n'échappe pas à cette logique. Il faut parler, parler, dire ce qu'on est, se fixer, s'identifier, s'acheter, se reconnaître, se voir parler, se voir soi du point de vue de l'autre. Vraiment? Le faut-il? Je ne le pense plus. À moi, dont les amours éphémères sont trop souvent réduites à ce terme, sexualité, à moi, dont la parole trop singulière ne peut se transformer en capital, je souhaite la liberté de me renouveler comme une diva, une freak, une dyke ou une mangeuse de cake, 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 et, au fil des années, d'ajouter perpétuellement du sens à la personne que je suis, de développer un langage flexible, de la nuance, des zones grises, qui ne sauraient se réduire à une étiquette de prix, à une crème. Une tension réside donc dans le processus d'explicitation, le fait de dire sa sexualité et son émancipation économique dans le cadre d'une culture hyper-capitaliste. Car ces discours, aussi frontalement explicités, deviennent manifestement un lieu de profit, tout en nous soumettant toujours davantage. Pour moi, cette tension est centrale dans notre société. Elle est un nœud qui témoigne de la profondeur des œuvres artistiques et économiques de Rihanna. La musique populaire, comme les produits de maquillage, est polyphonique. Elle est un langage qui répond à la fois au discours capitaliste et aux besoins d'émancipation sociale. Je parlais plutôt d'une sexualité affranchie. Mais celle-ci reste généralement exprimée par des relations archétypales homme-femme. Pour que j'y entende l'expression d'un possible queer, je dois d'abord le rendre possible dans les discours qui m'entourent. D'où mon désir de montrer que cette interprétation existe, qu'elle est inscrite en filigrane dans l'œuvre de Rihanna en montrant les zones grises où les revendications sociales peuvent survenir, la beauté de la carrière de la star et qu'elle révèle, coup sur coup, les frontières sociales qui existent en se plaçant droit dessus, en les rendant saillantes, audibles. Une fois qu'elles sont perçues, elles peuvent être mieux déconstruites, voire niées. Ce mouvement est déjà en branle. Au terme de mon essai, de ma recherche effrénée du moi variable dans Rihanna, je croise une dizaine de personnes issues de plein de sphères de ma vie, une drôle de collectivité qui est ensemble, pas toujours ensemble-ensemble, mais ensemble, oui, en groupe, en même temps. Cet ensemble, il constitue déjà notre société. Il est celui qu'on voit quand on sort dans les rues et quand on se laisse porter par les rythmes de notre époque. Rihanna est un cri que nous nous plaisons à produire. Un cri dans lequel s'expriment les fantasmes d'une collectivité plus consciente d'elle-même. Un cri polyphonique et complexe où il est difficile de discerner clairement les voix parfois contradictoires qui s'y assemblent, mais on peut choisir d'entendre dans ce tumulte les sonorités qui incitent à la contestation. Ayant fait corps avec la musique de Rihanna, je constate à quel point il est bénéfique pour tous toutes d'entretenir une relation ludique et revendicatrice avec la norme. Parce qu'en se positionnant par rapport à elle, il devient plus clair que tous toutes y dérogent, subtilement ou explicitement, silencieusement ou furieusement. Cette musique est une façon de se concevoir qui permet de mieux en apprécier les écarts. Ce qui est subversif dans la musique de Rihanna, c'est l'idée que l'expression des injustices sociales soit apte à nous rassembler, que contrairement à ce que veulent nous faire croire les géants du capitalisme en comportementalisant et en insistant sur nos différences, c'est bien le refus de cette division qui permet et solidifie ce rassemblement. Tandis que la grande tour du stade olympique ploie devant moi, je rejoins les autres pour hurler avec Rihanna. Pour it up, watch it all fall out. Verse-le, regarde tout tomber. C'était « Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir », un texte de Gabriel Cholette, paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue Liberté. Nos suggestions de lecture, policiers. Des propositions des libraires indépendants parues le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ». Une enquête de Dreadful Water, tome 1. Meurtre avec vue. Thomas King, traduction Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, à lire. Avec cette première aventure d'une série de 5, mettant en scène cet ex-policier autochtone devenu photographe, Thomas King échafaude un polar fascinant, empreint d'humour. Dans les villes de Chinook, où s'est installé Tom's Dreadful Water pour y mener une vie plus tranquille, un meurtre est commis. Le coupable dans la mire des policiers locaux, le fils de la chef de bande, soit l'un des militants opposés au projet d'un complexe luxueux dont les retombées bénéficieront à la communauté autochtone. Le connaissant et ne croyant pas qu'il puisse être le coupable, Dreadful Water fouillera discrètement cette affaire en privilégiant une toute autre piste que celle des policiers. Ligne brisée. Caterina Vermette, traduction Mélissa Véro, Québec-Amérique. Couronné par le Combat national des livres 2018, ce polar qui dénonce le racisme systémique dont trop de femmes autochtones sont victimes se déroule à Winnipeg, dans un quartier reconnu pour son taux élevé de criminalité. Des vies qui s'imprègnent les unes des autres. Soudainement, la réserve se défait. Et, dans toute sa dignité, la communauté apparaît. J'aime l'audace de ce livre qui nous entraîne si profondément dans ce quartier de North End que tous les repères statistiques, stéréotypés, idéalisés sont perdus. Ne reste que l'intimité, l'humanité. Tels étaient les propos de Naomi Fontaine au sujet de ce roman signé d'une auteure métisse incontournable également pour sa poésie. C'était nos suggestions de lecture, policiers, des propositions des libraires indépendants parues le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.